Je ne sais pas si vous êtes tous en fait plus ou moins créateurs sonores ou oui, d'accord. Donc on est en terrain quand même ami, familier. Mais merci Alexandre, merci Jean-Michel et à l'école aussi. C'est vrai que les partenariats avec l'école, ils datent pas d'aujourd'hui. Ça fait des années. Hein, tu nous le rappelais encore dans le bouquin Stisonic, qui est paru en 2000, début 2015 et dont je vais un peu me servir. Cette fois-ci, pour cette communication sur les arts sonores dans la cité, c'est vrai que l'école, avec l'atelier d'esthétique sonore, est là depuis maintenant, je ne sais pas, peut-être 10 ans, je ne sais pas, parce que Stisonic est né en 2003, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on propage, j'espère, les bonnes ondes sonores dans la cité de Mons. Mons, c'est une ville à une demi-heure, à 45 minutes de Bruxelles, à 20 minutes de la frontière française, pas loin de Maubeuge, pas loin de Valenciennes, à 1 heure de Lille aussi. Mais c'est vrai que d'emblée, c'est un peu un festival qui s'est implanté dans cette ville en 2003 avec l'idée de vraiment mettre le son en trait d'union entre des lieux, entre des communautés, entre des pratiques. Au centre-ville de Mons, qui est une jolie ville patrimoniale à dominance 18e et qui est un centre qu'on peut parcourir à pied facilement. Et donc, c'est vrai qu'à l'origine, il y avait l'envie d'explorer le son dans toutes ses dimensions contemporaines, en allant au-delà des représentations musicales traditionnelles. C'est pas du tout qu'on exclut la musique, mais on est bien plutôt dans les arts sonores. Et donc traiter le son comme matériau premier, aider à la conception, à l'élaboration d'œuvres à dominante sonore, parce que c'est le son et quelque chose, le son qui croise et d'autres choses, je vais y revenir, d'autres disciplines. Donc il y a une dominante audio interdisciplinaire, j'allais dire, dans ce qu'on programme, en lien avec des architectures qui sont à la fois patrimoniales, mais aussi industrielles, intérieures, extérieures, insolites, publiques, privées. Sortir des limites du cube blanc, de la boîte noire, de la salle de spectacle, et proposer, excusez le néologisme un peu facile, une déambulation dans la ville à un public qui est peut-être pour 10% d'un public très spécialisé et pour 90% d'un public de curieux qui vient d'un peu partout, parce que maintenant le festival a une certaine réputation aussi, et ça leur permet de visiter, cette ville audio-métamorphosée en septembre. Donc c'est vrai qu'on tournait d'emblée le dos à ce que je pourrais appeler l'orthodoxie muséophile ou contempo-galeriste, et assez résolument, et ça pose évidemment des enjeux, mais des questions, des difficultés aussi, de comment exposer, entre guillemets, ces œuvres sonores dans l'espace public. Qui ont toutes des demandes très différentes. Ce sont toutes des œuvres in situ, donc contextuelles. Ce sont la plupart des œuvres, la grande majorité sont des créations ou des réadaptations spécialement pour Citysonic. Donc c'est vraiment la ville, comme je pourrais dire, d'un théâtre d'audio-opération qui se donne à écouter, qui se donne à voir aussi. Alors, je disais tout à l'heure qu'on avait choisi une approche résolument hybride. C'est aussi l'approche de mon centre Transculture, qui est un centre des cultures numériques et sonores, qui lui date de 98, qui était d'abord à Bruxelles et qui maintenant est à Mons, et qui défend les cultures numériques et les cultures sonores dans leur transversalité, et non pas dans ce qu'on pourrait peut-être. Ça veut dire ne pas nier leurs spécificités, mais certainement pas les ghettoiser. Donc, faire du passage vers d'autres croisements, vers d'autres publics également, et voir le numérique ou le son comme vecteur renforcé de transversalité, et certainement pas de repli. Alors, c'est vrai que cette philosophie-là, on l'applique à Citysonic. Alors, Citysonic, c'est toujours le son et quelque chose. C'est le son et la plasticité, le son et l'architecture, le son et le numérique aujourd'hui de plus en plus présent, mais pas que. Le son et la littérature vivante, comme disent les Québécois, ou la poésie sonore dans toute sa diversité, là encore. le son et ses histoires, l'histoire de la ville, mais aussi l'histoire du son et ses histoires sonores. Il ne vient pas de rien, il ne vient pas de rien, ces arts sonores. On le rappelle avec des pionniers également qui croisent des jeunes artistes. Le son et ses machineries, machineries low-tech, high-tech. Et évidemment, au centre de tout ça, l'auditeur devenu écouteur, parfois auditeur, écouteur malgré lui, au centre de notre préoccupation, qui est de réactiver une écoute active ou d'activer une écoute. Les Anglais parlent parfois de deep listening, en tout cas d'une écoute, d'une vraie écoute, sur des objets sonores singuliers. Donc des esthétiques totalement diversifiées, des pratiques audio croisées que l'on revendique. Et jusque maintenant, c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu affaire à des critiques qui nous taxaient de pas assez ceci ou pas ou trop ceci. C'est toujours important, je pense, d'ouvrir cette diversité d'esthétiques. Ça ne m'empêche pas, par ailleurs, en tant que commissaire, aussi d'avoir des manifestations beaucoup plus précises, soit monographiques, soit thématiques, soit par rapport à des lieux précis qui sont beaucoup moins diversifiés que City Sonic, mais j'aime bien justement cette diversification-là parce que ça nous donne un vivier incroyable chaque année. On est entre 50 et 80 artistes chaque année, la plupart présents, donc c'est quand même important, parfois en résidence aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ces œuvres-là métamorphosent les architectures de Mons, mais aussi d'autres villes associées, mais principalement Mons. On était à Bruxelles, on était à Maubeuge, on était à Enghien-les-Bains, on était à Huy, près de Liège, on était dans pas mal d'autres villes ponctuellement également. Ce que j'appellerais un peu des audiographies où l'imaginaire et le sensible se mêlent, participent aussi à, j'allais dire, donner une forme de nouvel écho ou de retrouver un autre écho à la ville. J'aime bien cette idée qu'écouter, c'est aussi relier. Ça fait aussi partie de notre philosophie dans Transculture. Donc ça relie pas mal de partenaires, très concrètement, l'école d'art de Mons, le manège centre culturel important à Mons. Nous étions aussi partenaire avec la Maison du Design, avec plein d'autres partenaires, notamment l'année passée, c'était une très grosse édition avec 26 lieux qui étaient reliés dans la ville. C'était la capitale européenne de la culture, qui était Mons, qui avait fait un petit peu le pari de la technologie. Avec le premier slogan, c'était quand la culture rencontre la technologie. Et c'est vrai que là, on était assez au centre du sujet. Mais toujours cette ouverture, toujours ce côté militant pour l'écoute active. Et aussi une attention évidemment à la question entre guillemets, de la monstration du son et comment est-ce qu'on joue contre ou avec ou quand on la détourne cette pollution sonore, cette espèce d'audio zapping accéléré également des visiteurs et avec lequel les artistes peuvent jouer également. Parfois, un visiteur peut décider en 5 à 10 secondes s'il reste ou pas dans un espace sonore, ça paraît quand même un peu une forme de dictature aussi pour certains artistes qui ont envie de jouer avec le temps long aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et cette idée aussi d'arpentage de la ville, j'aime bien l'idée de Gilles Malattrey. Gilles Malattrey, qui a un blog que vous connaissez sans doute, s'appelle Des Arts Sonnants, qui est lui-même qui a un background de paysagiste, de musicien, et qui fait des marches, des promenades sonores un peu partout. Je vois qu'il y a une activité effrénée, des workshops également, qui sont des workshops d'écoute dans la ville, et il parle de PASS, parcours audio sensible. On a fait à City Sonic plusieurs, il va en refaire là encore à mon invitation avec des élèves de l'école d'art dans une dizaine de jours. Il parle de Promeneur écoutant, qui est un livre aussi, le titre, si je m'abuse, d'un livre de Michel Chion assez fameux. Et pour présenter ces promenades audiosensibles, ces parcours audiosensibles, il dit à la frontière entre actes poétiques, écologiques et spirituels, la marche d'écoute, ou soundwalk, comme disait Murray Schafer, lui plutôt dans une idée de sensibilisation à l'écologie sonore, on y reviendra peut-être, est une pratique, un acte qui nous relie fortement au monde. Partir, marcher en écoutant simplement dans le plus simple appareil, sans aucune médiation technologique à oreille nue, constitue non seulement une relation privilégiée et immédiate à notre environnement, mais est aussi un acte citoyen fort, une manière solitaire ou complice d'arpenter, de faire l'expérience, finalement d'habiter, de partager un espace public transfiguré. Alors, on ne peut vraiment que s'associer à cette description que j'ai lue récemment dans un documentaire radio qui lui est consacré sur France Culture, que je vous recommande, donc, Parcours audio sensible par Gilles Malattrey. Et je vous fais tout de suite écouter, puisque l'idée c'est de passer pas mal de sons et aussi quelques vidéos aussi, un fragment d'un parcours là enregistré pour le coup par Gilles Malattrey, donc avec du field recording on pourrait dire, qui s'appelle Mons le son et que j'avais choisi comme introduction à notre disque, puisque chaque année on fait ce que j'appelle des catalogues audio, on fait d'autres choses aussi, je vous en reparlerai, je vais m'en servir ici pour des exemples, et là c'est le dernier de l'édition 2015. Alors tout ne rentre pas dans un disque, parce qu'évidemment pour certaines installations interactives ou immersives c'est juste pas possible, mais les artistes font quelque chose spécialement pour le disque qui est une espèce de catalogue raisonné de traces créatives en elle-même et qui a son autonomie aussi. Alors un petit bout de Gilles Malattrey, Mons le son. C'est tous les sons qu'il a enregistrés à Mons.
Le son. Un s'entendre peut s'entendre sans tendre l'oreille.
Ça, c'est un peu l'hymne montois de la fête du doudou, qui est une fête folklorique à Mons. Voilà, c'était un petit extrait, mais cette voix, il a prise dans la rue aussi, qui commentait quelque part, une espèce de poète sauvage, qui commentait des installations, je trouvais ça assez rigolo. Alors, cette idée du parcours, évidemment, elle est liée à quelques idées philosophique, mais je ne vais pas trop m'embourber là-dedans. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, la rencontre, par exemple, d'Hakim Bey et ses zones d'autonomie temporaire que j'ai bien connues lors d'une autre vie à New York, était vraiment important. Justement, cette zone d'autonomie temporaire, vous savez, vous connaissez ce bouquin qu'on peut downloader facilement puisqu'il est anti-copyright sur Internet et qui est traduit en français depuis pas mal de temps. Ça s'appelait Temporary Autonomous Zone en anglais, TAZ, et qui définissait justement, qui refusait à la fois une forme de définition de ce que serait une zone d'autonomie temporaire, mais imprégnait aussi des fameuses utopies pirates, mais aussi des psychogéographies situationnistes à la Debord et consorts. Donc qui refuse de se laisser définir, mais qui, un peu comme le son, de par sa nature voyageuse ou gazeuse, on pourrait dire, ou liquide, refuse de se laisser enfermer. Et il occupe provisoirement, dit Hakim Bey, un territoire dans l'espace, le temps ou l'imaginaire, et se dissout dès lors qu'il est répertorié. Alors, on pourrait dire que quelque part, City Sonic occupe une zone ou crée une zone d'autonomie temporaire à chaque fois différente dans la ville, puisque les lieux sont différents, les œuvres sont différentes. Il y a des lieux qui reviennent, mais ils sont métamorphosés différemment par des artistes et des projets à chaque fois différents. Et il y a une espèce d'invitation douce, cette fois, peut-être à la dérive, à passer d'une architecture sonore à une autre, une implantation artistique à une autre, et à voir ces œuvres aussi comme une déambulation. Alors cette idée de la marche, elle est importante parce que on la retrouve évidemment chez pas mal d'artistes, du Lent Art, mais aussi chez les Belges, Francis Alice, qui est un artiste important, qui a joué beaucoup là-dessus et qui l'a analysé. Mais on en trouve chez des musiciens aussi, je pense à Luc Ferrari notamment, promenade sonore et compagnie, promenade musicale d'ailleurs qu'on a montré à Mons après son décès, mais avec sa veuve. Et Hamish Fulton qui disait « No walk, no thought », pas de marche, pas de pensée. Donc la marche considérée aussi comme une méditation, comme une réflexion. J'aimais bien cette citation de Jean-Marc Bess qui a écrit « Le goût du monde, exercice de paysage », que je reprends dans le livre ici. Il dit « Marcher n'est pas seulement être là dans le monde, c'est y être de manière interrogative. Marcher est une expérimentation du monde et de ses valeurs. La marche, en effet, requalifie l'espace au sens propre du terme. Elle donne des nouvelles qualités, des nouvelles intensités. » Et c'est bien ce qu'on essaye de convier. On essaye d'y convier, en tout cas, le promeneur, auditeur, déambulateur, marcheur, à se retrouver, mais aussi à donner une nouvelle intensité, une nouvelle identité, j'allais dire, une identité par le son également et par son écoute active dans ces différents lieux. C'est pour ça que j'aime aussi de parler de in-situationnisme, m'amusant un petit peu autour du fameux terme in-situ et situationnisme, parce qu'on crée réellement des situations ou des situations dans l'espace urbain et qui sont éminemment contextuelles. Alors, on a joué pas mal sur ces œuvres déambulatoires, je pense notamment au collectif MU, que vous connaissez peut-être, collectif français, qu'on avait invité. C'est très difficile de montrer des images du collectif MU, parce qu'on parle bien d'une déambulation. Et ici, par exemple, c'était Sound Delta, qui est une déambulation, en fait, où ils étaient passés, j'étais avec eux d'ailleurs, dans un festival, le Festival Éco-Sonore de Tunis, enregistré là-bas tout un travail qu'ils avaient fait de promenade avec des GPS autour de la cathédrale de Carthage. Les sons provenaient de la ville de Tunis également. Et dans la ville de Mons, au centre-ville, qui est la Grand Place, c'est un peu comme la Grand Place de Bruxelles, la Grand Place des villes du Moyen-Âge, où tout le monde est là, et c'est de là, par la Grand Place en général, que débute le parcours stitsonique, un parcours libre par ailleurs. Eh bien, ils avaient mélangé des sons enregistrés sur la Grand Place de Mons et des sons autour de la cathédrale de Carthage. Et selon qu'on était à un endroit de la Grand Place, ces sons vous arrivaient dans ces casques. Et c'était parfois extrêmement perturbant d'entendre, par exemple, le Mesuine de loin, à côté du Beffroi de Mons ou de l'Hôtel de Ville de Mons, tout à fait catholique, etc. Mais ça dépassait vraiment ce côté anecdotique pour jouer sur le déplacement et aussi sur les liens qu'on peut faire avec l'écoute. Un autre artiste, Julien Poitvin, qui était il n'y a pas encore très longtemps dans le collectif APO 33 à Nantes, qui est par ailleurs un ancien élève de l'école d'art de Mons, a fait des déambulations également intéressantes qui s'appellent Géosonique. Je regarde si j'ai une photo de Julien, peut-être pas, non. Et c'est une déambulation en fait géolocative qui travaillait sur un site, le site où on est installé, qui est le site des abattoirs, des anciens abattoirs qui ont été rénovés récemment. Et là, il a travaillé sur des sons qu'on n'entend pas, les sons en fait qui sont cachés, par exemple des sons d'un puits au fond. Il va chercher ce son de l'eau et il nous le remet dans le casque quand on passe à l'endroit au-dessus de ce puits caché qui n'est plus utilisé dans les abattoirs, où il a fait un parcours qui s'appelle donc toujours Géosonique. On a fait plusieurs parcours avec lui dans d'autres villes, à La Louvière notamment, qui est un peu la ville du Délibule, où il y a une patrie du surréalisme belge qui est là, et notamment des écrivains comme Achille Chavet venait de La Louvière, et d'autres à coquiner de près ou de loin un surréalisme ou au mouvement du Délibule dans les années 50, qui avait Paul Bury notamment, un sculpteur qui a fait aussi des œuvres audio-sculpturales parfois intéressantes. Et là, quand on passait dans la ville, ben, il jouait plutôt sur ce côté surréalisme avec des citations qu'il avait été chercher dans les archives, par exemple d'Achille Chavée, etc., à certains endroits de parc ou dans la ville. Donc je parlais de Gilles Malatret pour la promenade sonore. Il y a aussi d'autres types de parcours dans le parcours, parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit, de parcours d'œuvres qui font du lien dans un parcours beaucoup plus grand qui est City Sonic. Et je pense notamment à un artiste montois assez truculent qui s'appelle Eric Van Hosselaar, qui s'est fait connaître et assez connu maintenant en France également pour ses concerts de musique pour fruits et légumes. Et qui notamment fait des instruments avec des fruits et des légumes et en joue de manière très truculente. Ici, c'est un parcours qu'il a appelé Artscopes. Et donc là, c'était avec un stéthoscope. Finalement, un stéthoscope, c'est le casque acoustique du pauvre, hein. Et donc, on donnait des stéthoscopes aux gens à l'entrée du parcours. Et il y avait toute une série de points dans la ville où ils pouvaient écouter soit des objets, des instruments inventés, par exemple cette espèce de roue inversée qui devient un instrument sonore par Eric Van Hosselaar, ou encore passer à certains endroits de la ville, ici derrière une porte. Et derrière une porte, les gens pouvaient écouter à ce moment-là une création sonore, un peu radiophonique ou poétique, en général assez surréaliste aussi, autour de cet endroit, avec toute une série de points dans la ville qui leur fait redécouvrir la ville par cette écoute très acoustique. Qu'est le stéthoscope, et avec des œuvres soit d'instruments inventés, soit simplement d'écouter les acoustiques à certains endroits de la ville, soit d'écouter des œuvres enregistrées pour cela. Donc cette idée de la déambulation de la marche, je parlais tout à l'heure aussi de privilégier une espèce de pluralité des arts sonores, c'est pour ça que j'aimais toujours au pluriel aussi. Et que pour moi, c'est à la fois ce qui sonique, cette pluralité des singularités ou des singularités plurielles. Les singularités, ce sont les œuvres, ce sont les artistes qui sont un peu irréductibles aux étiquettes un peu faciles. Et en même temps, cette diversité d'esthétique, cette diversité d'approche. Donc être à l'écoute et aussi donner à écouter ces singularités plurielles qui sont autant d'échos d'un monde turbulents et parfois des échos poétiques, parfois des échos engagés, parfois des échos ludiques, selon les ici plus ou moins ludiques avec Eric Van Hosselaar par exemple, d'autres beaucoup plus engagés. Alors ce terme de sound art, je ne vais pas vous dire d'où il vient, mais finalement vous savez tous qu'il est assez récent en tant que tel, de cette expo sound art justement à New York en 83. Ceci dit, des artistes comme Paul Panhuysen par exemple, artiste qu'on devait programmer dans City Sonic, mais qui est mort malheureusement cette année-là, un grand artiste hollandais qui a beaucoup travaillé avec le long string, vous voyez, ce long fil sur lequel il travaille des acoustiques, et qui avait un lieu magnifique à Rotterdam, s'appelle Apollo Huys, où il a programmé plein de choses très intéressantes, d'avant-garde contemporaine, mais toujours actif sur le son. Ben, Paul Panhuysen avait parlé de sound art dès les années 70, en fait, j'ai découvert ça récemment. Et donc c'est quand même un terme qui traîne chez les Anglais, qui est un peu une généralité, avec des gens qui n'aiment pas ça du tout, le terme sound art. Max Neuhaus, par exemple, n'aime pas le terme sound art, il s'en méfie, alors qu'on est considéré comme étant des pionniers de l'art sonore ou des arts sonores, parce qu'il dit que souvent ça regroupe des choses labellisées en tant que sound art qui ont peu de rapport avec le son ou avec l'art. C'est un avis assez tranchant. Pour lequel on peut être plus ou moins d'accord. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de montrer encore une fois la pluralité de ces définitions. Et dans le livre City Sonic, j'avais justement convié pas mal d'artistes qui étaient passés par City Sonic à nous donner leur définition de qu'est-ce que c'était pour eux l'art sonore ou les arts sonores. Et je vous en lis quelques-unes parce que je pense que c'est intéressant de voir un peu de quoi on parle et de quoi on parle dans sa diversité et d'où on parle. Parce que finalement, à partir de notre pratique, on est souvent artiste créateur sonore et autre chose, encore une fois, ou venant d'un certain endroit, d'une certaine pratique vers le son. Et par exemple, Christian Marclay parle du silence, qui est l'espace négatif qui définit le son. Intéressant, c'est une définition un peu cageienne finalement, hein, puisque pour Cage, on le sait, vous avez tous vu cette vidéo magnifique qu'on peut voir sur YouTube où il nous parle du silence, qui pour lui est la plus belle musique. Et donc le silence, l'espace négatif qui définit le son. Et c'est vrai que dans un festival d'art sonore, il faut aussi du silence. Et on en met de plus en plus d'ailleurs du silence. On a même fait des expositions sur le son avec des œuvres qui n'étaient pas du tout sonores. On a appelé ça objet son. Alors ce n'est pas l'objet sonore de Schaeffer, hein, mais objet-son, parce que c'est l'objet qui essaye de parler du son, mais qui en fait nous montre aussi l'impossibilité d'en parler. Justement, si je parle de Christian Marclay, je pense à ces instruments impossibles. Alors, si je les trouve dans ma valise, cette guitare, vous avez peut-être vu, voilà, cette guitare-là, hein, Prothesis, je crois qu'il a appelé ça. C'était un des instruments impossibles qu'on a montré à Stissonic. On a fait deux fois ces expositions objets son. Ou alors des instruments de Régnier Le Ricollet, par exemple des trombones qui font tellement d'entrelacs qu'on ne peut plus en jouer. Et Marclay a cette position, il le dit, je crois, dans certains textes, de dire qu'on ne peut pas, quelque part, rendre compte vraiment du son. Donc, c'est pour ça qu'il passe aussi par la vidéo, par le cinéma, étant lui-même musicien platiniste, comme vous savez, mais qui passe aussi par des œuvres purement plastiques pour parler de son. Pour moi, c'est aussi de l'art sonore. Ça va jusque-là. Ça, c'est une définition. Joachim Montessuy, vous connaissez son nom aussi, musicien français, qui est venu quelquefois à Stissonic, et parfois avec le collectif MU d'ailleurs. Parle avant tout que les arts sonores, ça vient du son intérieur. À partir de là, le son intérieur peut devenir une extériorisation. Je trouve ça intéressant aussi, mais c'est, donc d'abord, est-ce qu'on a ce son intérieur, ce home finalement, qu'on dirait dans d'autres cultures. Jean-Paul Decy, compositeur, directeur d'ensemble musique nouvelle, violoncelliste, donc musique vient plutôt des musiques contemporaines ouvertes avec qui on travaille très souvent. Il dit dans un très beau texte, toujours dans ce livre, il parle de l'art sonore et il nous dit, voilà, je vous lis tout le texte, je trouve qu'il est beau, il est très court. L'art sonore abolit les frontières qui jadis séparaient la musique et le bruit, le son et le silence, et qui tenaient à l'écoute et à l'écart du regard. L'art sonore prend dans ses raies tout ce qui bruit et sonne. Son de la nature et de la culture, fruit du hasard ou de la volonté, tout son parle à qui veut l'entendre. L'art sonore nous invite à tout entendre, à écouter de tous nos sens, et ce, en d'infinie synesthésie, à toucher, voir et goûter le son. L'art sonore, pour ce faire, souvent détourne, joue et déjoue, invente, bricole, recycle, amuse ou étonne. Et parfois, l'art sonore émerveille et, en son, recrée le monde. L'art sonore nous offre alors, sans crier gare, des oreilles flambant neuves. C'est joli et bien tourné. Donc là, plutôt l'idée de casser les frontières. Hein. Par exemple, là, je viens de donner un cours cette semaine à l'école d'art au carré, qui est l'école d'art de Mons, et le directeur, qui s'intéresse au son, avait mis comme intitulé du cours Musique, bruit et son. Et donc moi j'en ai fait un cours d'art sonore au pluriel, mais on voit bien musique, bruit et son, on pourrait rajouter silence aussi évidemment, hein, dans l'aspect concave, convexe dont parle Marclay, ce sont les bornes dans lesquelles on joue finalement, dans lesquelles on évolue, et qui sont une sorte de ping-pong tout le temps entre eux. Isabelle, artiste du corps, avec qui je travaille également, qui fait des massages sonores, parle plutôt, elle, du son du corps holistique. Donc, ça, le son, encore une fois, qui vient du corporel. Moi, j'utilise d'ailleurs assez souvent le mot sensoriel, parce que j'aime bien sensoriel. Sensoriel, je trouve c'est très important pour Stetsonic, parce que quand elle fait des massages sonores avec des bols tibétains, je vous en passe peut-être un petit extrait, thérapie, puis si je. Internet marche, oui, c'est super. Parce que Internet ne marche en général pas quand on donne des conférences, notamment d'art numérique, mais ici, ah, J'ai parlé peut-être un peu vite. J'aurais dû d'abord me connecter, imbécile que je suis, sur le réseau, afficher le mot de passe. Et c'est quoi le mot de passe?
Le mot de passe,
c'est
réseau Wi-Fi.
Sans accent.
Majuscule à réseau.
Ah, oui.
R majuscule, en se pressant minuscule.
Oui.
E-S-E-A-U.
Oui.
Wi-Fi.
Avec sa Wi-Fi.
Non, il n'y a que le W, je prends pas plus tard.
Oui.
IFI, et ensuite 01 ou 001
001.
Voilà, voilà, il faut le trouver. Hein. Je rejoins, j'espère que ça va aller. Je vois que oui, c'est très bien. Et là, je vous passe un petit extrait d'Isabelle et Massage Sonore. Ce n'est pas parce que je travaille avec elle, mais je trouve que c'est souvent une bonne introduction, notamment pour les gens qui ne connaissent rien au son et qui ne s'écoutent pas. Parce que, évidemment, notre corps est un merveilleux diffuseur aussi. C'est à la fois une caisse de résonance, mais il diffuse du son aussi. Et donc, elle travaille avec les bols tibétains, hein, qui était une thérapie, qui reste une thérapie, même du temps des chamans tibétains. Et elle en profite également pour nous dispenser ces bonnes vibrations qui nous recentrent en général. Mais aussi, absolument tous les publics, que ce soit des musiciens, des enfants, des personnes qui ne connaissent rien à l'air sonore ou au son, même des personnes, j'ai vu, autistes, que ça calme, voire des personnes qui n'entendent pas, parce qu'on entend avec les os aussi les vibrations du son, ça fait toujours un effet incroyable. Et pour moi, c'est une des portes d'entrée tout public, quelque part, et en même temps poétique, qu'on peut avoir dans un festival comme City Sonic. Elle en fait aussi des ateliers où elle joue avec l'odeur, le son, les huiles essentielles, les couleurs. Donc, une espèce de synesthésie. Alors, le mieux, c'est d'être évidemment à la personne couchée. Parce que là, sur chaque point du chakra, vous avez une espèce d'improvisation qu'elle fait en fonction de votre corps et de ce qu'elle sent également, avec des dizaines de bols tibétains. Et leurs métaux précieux, mais aussi un bol en cristal. Alors ça a donné lieu aussi à d'autres formes d'installation, d'autres formes de performance, mais c'est encore une fois ici le corps qui nous parle. Et je reviens à ma définition, tout en gardant ceci en fond peut-être. Par exemple, Christophe Bayot, qui est un musicien électronique et un artiste visuel également, qui fait des vidéos, nous parle de l'oreille à mi-chemin entre la réalité et la fiction avec l'art sonore. Intéressant aussi parce que quelque part là, le son peut nous replonger dans notre réalité la plus intime et en même temps nous en sortir avec son imaginaire. Gauthier Keyhart, musicien belge électronique également, il parle de voir l'écoute, écouter la perception, percevoir l'invisible dans une alter-écoute. J'aime bien cette idée d'alter-écoute. J'utilise assez souvent ce mot alter quelque chose. Pas dans une optique alter-mondialiste. Hein. Enfin bon, on peut en être sympathisant, c'est pas ça. Mais l'idée de l'altérité aussi. On est toujours dans une écoute autre, une perception autre, une œuvre autre. Et si on n'est pas ouvert à cette altérité-là, eh bien... Évidemment, on reste dans le formatage, dans les conformismes, dans le spectacle, etc. Dans cette société d'hyperspectacle qui est évidemment le contraire de ce qu'on essaie de faire dans Transculture, dans City Sonic, avec cette intimité aussi. Hein, ici, il y a une forme d'intimité de cette performance, par exemple, qui est très importante pour nous. Dominique Petitgan, qu'on avait invité aussi dans City Sonic, il avait fait à la fois une réponse gentille et une réponse méchante, comme il dit, sur l'art sonore. Alors, je vais essayer de la retrouver, parce que je n'ai pas bien noté la page. Là, on va y arriver. Vous connaissez l'œuvre de Dominique Petitgan, je suppose, hein ? Sur ces petites compositions familiales et qu'on avait fait travailler autour du musée d'art contemporain, mais pas dans le musée d'art contemporain. Ça fait partie un peu de notre politique aussi. C'est pas une coquetterie, mais c'est l'idée de travailler avec les lieux institutionnels, mais plutôt pour ont montré d'autres justement détournements, d'autres voire d'autres usages, voire d'autres formes d'environnement grâce au son. Alors, Dominique Petitgand, où es-tu? Il y en a beaucoup des définitions là-dedans. Alors j'aime bien, je vais la retrouver tout à l'heure. J'aime bien aussi celle de. Là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, on n'est pas dans le New Age, je vous rassure. Nicolas D'Alessandro, qui est un chercheur à l'Institut de recherche numédia des nouvelles technologies de Mons, avec qui on travaille, qui est aussi un musicien, et qui invente des instruments numériques, il dit « On vit dans une société où le son est au service d'une image omniprésente. Il en devient difficile d'imaginer le son pour lui-même, tant il est consommé comme produit dérivé de tout ce qui nous entoure. Ainsi, le sens donné au paysage sonore qui nous entoure porte des béquilles. Combien de fois ai-je entendu « Cette pièce est intéressante, mais je la vois mieux comme une musique de film. » Je pense que l'art sonore, c'est la capacité à se poser des questions sensorielles et symboliques sur le son pour lui-même. C'est la capacité à construire du sens à partir de ce langage. La musique a un effet considérable et insoupçonné sur la cognition humaine. Réfléchir en termes soniques est presque une démarche à contre-courant, subversive, qui invite à la lenteur et à l'expérience intérieure. Bien sûr, l'art sonore doit s'hybrider avec d'autres formes de création, mais c'est rendre service à l'hybridation elle-même que de penser le discours sonore comme tenant par lui-même sur ses jambes. Et à travers cette démarche, se poser toutes les questions relatives aux liens entre les sons et la société, car le son est sociétal et la musique sociale. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est aussi la remarque d'un chercheur. Et d'autres définitions des arts sonores ou des artistes qu'on avait, qui sont parfois catalogués comme artistes sonores, en fait, refusent quelque part cette définition d'art sonore. Pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils reviennent à une forme de musique étendue, c'est-à-dire. C'est notamment, lui c'est un musicien, mais pas que, Gérard Ourbette du collectif Artzoid, avec qui on a aussi fait des installations. Ça peut être aussi la position même d'un artiste comme Such, alias Marc Parazon, qui est pourtant ingénieur du son, qui travaille sur les vieux médias comme la cassette et la bande magnétique, qui est un artiste que je trouve très intéressant, et qui lui revient quand même sur une forme de musicalité qui serait une autre forme de musicalité qui viendrait aussi des arts sonores. Voilà, ici, une partie de son installation qui s'appelle A Tape End, avec plein d'enregistreurs Revox et qui sont liés les uns aux autres. Il a fait aussi des performances uniquement avec des cassettes. Ici, on le voit avec des cassettes. C'est un artiste vraiment intéressant et je vais vous en passer un petit extrait. Je pourrais passer des dizaines, des centaines d'extraits puisqu'on en a produit autant, mais quand je me dis que ça peut être intéressant d'écouter aussi l'œuvre de l'artiste parfois par un autre biais, ben j'en profite si vous voulez bien pour vous donner un petit extrait. Et parfois, et je m'en excuse, je continuerai parfois à parler dessus parce que il y a des choses à dire aussi et que je m'en sers un peu parfois comme fond sonore. L'artiste m'en excusera aussi. Alors Such, dans le dernier disque, il y a un morceau de lui que je trouve vraiment intéressant, fait uniquement avec des cassettes. C'est pas en fait dans le dernier disque, on a sorti une cassette. Et oui, j'y reviens. Une cassette sur l'art de la cassette. Alors, tout ça est très méta. Je vais vous expliquer ça. Musique, Such. Il y a tellement de choses dans mon Gourmbi. Voilà, plutôt je vais chercher ici. Voilà, compilation, cassette art. Voilà. C'est cette cassette-ci. Voilà, j'en ai deux, trois à vendre d'ailleurs si vous voulez. Et qu'on a sorti à 100 exemplaires parce que c'était. Ah oui, je fais mon commerce en même temps, puisque je sais que vous êtes des convaincus. C'est pas TF1 que ça a marché. Et donc, ici, l'idée, c'était qu'on a fait une exposition dans City Sonic. Il y a des expositions dans l'exposition, hein, dans City Sonic. C'est un peu l'idée parfois. Et là, c'était l'idée de travailler avec des artistes qui étaient des artistes qui travaillait avec la cassette comme instrument de différentes manières. Et bon, Such travaille qu'avec des mini-cassettes, parfois avec des dictaphones aussi. Il a travaillé aussi avec des bandes magnétiques, mais là, c'est des cassettes, et là, c'est un morceau en live au festival que vous connaissez du Placard. Et qui est repris dans cette cassette témoignant de cette exposition, Cassette Art.
As for the tape recorders, the sounds we hear are from natural sources, which have been changed through electronic means, that is, of altering of speed, usually, or direction, perhaps, of the tape. What kind of natural sounds, I'm not sure, but they would probably include scratches on objects or dropping of objects, any kind of sound which might be made and then treated by a tape machine changes. It's really amazing what happens, for instance, to the sound of a cymbal if it is changed and altered by tape sound. Are we getting sound on the stage now, Jim? I'm going to open up the mic and see if something's already happened.
Et donc j'ai retrouvé la définition de notre ami Dominique Petitgand. Qui est celle-ci. Donc, quelle est votre définition personnelle de l'art sonore? Ça, c'est la réponse la question qu'on posait à tous les artistes. Réponse gentille. Un art du temps, en même temps qu'un art de l'espace, mais surtout un art de l'écoute. Réponse méchante. Je ne veux pas croire en l'existence de l'art sonore. Il y a l'art qui est un grand tout et au sein duquel cohabitent toutes sortes de pratiques, certaines liées à l'objet, d'autres au langage, d'autres encore réelles, à la fiction, au corps, à la géographie, que sais-je. Je préfère ces catégories à inventer, à questionner sans cesse, à celles liées à l'utilisation d'un outil ou d'une technique. Intéressant aussi les deux réponses d'ailleurs. Alors, justement, pour revenir, je fais des hypertextes et digressions en permanence, forcément, avec ce genre de festival et d'esprit transversal. Excusez ma schizophrénie, c'est pour mieux vous servir, j'espère. Et donc, Harold Schellings, qui est un autre artiste qui travaille uniquement avec la bande, on a fait une autre cassette avec lui, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Harold travaille aussi sur l'idée de ce matériel, ce vieux matériel, si je puis dire, toujours fascinant, qui est la cassette, bien qu'il y ait un petit retour de la cassette, hein, un petit peu dans les milieux... qui s'entendent eux-mêmes, mais auquel je souscris, a fait toute une série de found tapes. Voilà, j'en trouve ici. Ce sont, on en a fait aussi une exposition. Il prend des photos, en fait. C'est comme Harold est comme un animal qui pourrait trouver des truffes, sauf que les truffes pour lui, c'est les cassettes. Et donc partout où vous êtes en ville, il va vous trouver une cassette. Là où vous ne voyez pas de cassette, il y en a. Il prend une photo, il prend la cassette elle-même, qu'il lit, parfois qu'il essaye de lisser, et il fait des expositions dans lesquelles, et c'est sur son site internet, je vous renvoie Harold Schelling, c'est un artiste hollandais mais qui vit à Paris, incroyable. On peut entendre tout ce qu'il y a sur ses cassettes. Donc il archive quelque part ses sons trouvés, et il fait des photos de l'endroit, que je trouve d'ailleurs assez belle, de l'endroit où il a trouvé ses amas de cassettes. Et il appelle ça « found tapes », donc cassettes trouvées, et qui sont des sons trouvés également pour lui.
Ils sont trouvés réellement trouvés, enfin,
oui. Réellement trouvés, oui. Alors il a de plus en plus de mal à en trouver, parce que les cassettes, ça... Mais ça, il fait, je suppose qu'il fait quand même de temps en temps les marchés. Voilà, il en trouve, voilà, ici avec une tétine... J'aime bien celle-là. Vive la France. Non, oui, c'est sur place. Alors après, peut-être qu'il met un petit peu la photo en scène, mais c'est toujours là où il a trouvé la cassette. Il trouve la cassette, la bande magnétique. Après, il reprend cette bande magnétique. Il en fait une photo là où il l'a trouvée. Et puis, il reprend cette bande magnétique. Il la lisse ou il la met, il la numérise en fait. Et on peut l'écouter après sur son site internet. Ça dure des heures. Et où ça passe de tout, évidemment. Il y a des vieux discos, de la musique folk maghrébine. Et puis, on passe à l'enregistrement de, d'un répondeur. Enfin, il y a tout. Et lui-même joue aussi des cassettes audio lors de performances. Vous en passerez peut-être un petit extrait tout à l'heure. Moi, j'ai toujours un peu une tendresse pour les gens qui jouent avec les vieux médias, j'avoue.
Excuse-moi, je vais parler un petit peu dans, dans ta communication, parce que j'ai souvent plaidé l'analogie entre la photographie et la phonographie. Et c'est vrai qu'on a, des exemples de ce type de process, enfin de... avec des photographies troublées. C'est-à-dire il y a eu des artistes plasticiens qui ont eu le même type de démarche, avec la photographie, des photographies alors perdues qu'ils trouvaient.
Tout
ce que ça posait d'ailleurs pour question d'appropriation, de réappropriation de ces, documents, jusqu'où peut-on aller dans la réappropriation de signes qui appartiennent à un espace privé, d'une certaine manière, comme le sont sur une
cassette,
Et c'est intéressant cette analogie.
Tout à fait. Et ça dépasse aussi la simple archive, parce qu'il y a une poésie de ça. Il y a un geste, la photographie, il y a un geste aussi d'archive, mais il y a ce qu'il en fait, ces archives aussi. Puis le fait qu'il le mette sur Internet aussi, à disposition de tout le monde. Un autre artiste qui travaille aussi avec des cassettes audio, enfin c'était une œuvre, il ne travaillait pas en général avec des cassettes audio, c'est Colin Ponto. Jeune artiste français qui habite Bruxelles, et son collectif Impala Utopia, avec qui on a souvent travaillé, d'artistes belges et français. À l'origine, ce sont des élèves de l'étude de Lyon, l'école de Lyon. Et donc Colin ici, vous voyez, ça s'appelle Monster Happy Tape. Voilà ce que fait l'œuvre. Donc c'est une énorme. Lui aussi, c'est des cassettes audio trouvées. Et puis il en fait une énorme sculpture. Ici, c'était à Paris, je pense, au Centre Wallonie Bruxelles. Mais on l'a montré plusieurs fois, et évidemment dans Stissonic aussi. Toutes les œuvres que dont je parle ici sont directement liées à Stissonic. Et c'était un peu le but, je crois, de l'intervention. Et donc, vous pouvez lire ce qu'il y a sur ces cassettes trouvées, là, par des têtes. Vous voyez les têtes jaunes, là, avec des... Et il amplifie, il spatialise dans la pièce également, ce qu'il y a dans cette tête-là, et c'est souvent un son ralenti du coup. Mais du coup, on découvre un peu ce qu'il y a sur la cassette. J'ai un petit extrait vidéo que j'ai trouvé, parce que parfois je retrouve des choses que les gens ont pris, et c'est pas toujours évident de prendre le son, le sound art en vidéo d'ailleurs, et ni même en l'enregistrer tout court, mais ça, c'est sa beauté aussi, c'est ce qui nous échappe. Et il y avait Happy Monster Tape, je l'ai vu. J'avais trouvé une petite vidéo de Happy Monster Tape qui montrait un peu le dispositif. Bon, si je retrouve tout à l'heure, c'est pas grave. Donc ça, cette idée de qu'est-ce qu'on fait aussi avec les vieux médias, ou ce que des philosophes appellent l'archéologie des médias, finalement. C'est une question qu'on se pose aussi en numérique, d'ailleurs, et plus le numérique augmente, plus ces médias sont vieux. Et qu'est-ce que c'est un vieux média? Qu'est-ce qui n'est plus un nouveau média? Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est qu'il y a une forme d'acculturation, finalement. Le nouveau média n'est plus nouveau à partir du moment où on se l'est approprié, et à partir du moment où on n'en fait plus usage, il devient vieux. C'est pour faire court. Mais il nous dit toujours quelque chose de notre époque aussi, pas seulement du passé ou de l'inconnu. Alors, je vais faire court sur ces définitions d'art sonore, il y en a plein. Elles nous disent donc toujours un peu d'où on vient et là où on ne veut pas aller, et quelle est l'ouverture de l'horizon plus ou moins relative. J'en avais parlé d'ailleurs, je pense, lors de ma toute première conférence ici, mais j'avais... Au début, que je m'attaquais un peu à ces expositions et à Stissonic, au festival, qui n'est pas une exposition, lui, mais qui est plutôt une manifestation, si je puis dire, j'avais essayé d'avoir une autre forme de typologie, Je parlais de machine-son, de musique-son, d'image-son, de voix-son, d'environnement-son, et on pourrait dire aujourd'hui de réseau-son. Selon que machine-son, on parlait d'inventeurs d'instruments ou de nouvelles lutheries, on parle de lutherie sauvage ou de lutherie numérique aussi, de musique-son, les musiques contemporaines ou électroniques, mais qui travaillent le son en tant que tel, dans lequel le son a un rôle central, ce n'est pas toujours le cas. Hein, c'est le cas, par exemple, chez Chelsea, c'est souvent le cas chez Ferrari, ce n'est pas du tout le cas chez d'autres compositeurs contemporains, etc. etc. L'image son, bah, c'est tous ces dispositifs qui croisent cinéma, vidéo, mais aussi image numérique et son, mais dans lequel le son est tout aussi important que l'image, n'est pas à la solde de l'image, quelque part. La voix-son, ce sont qui jouent de la voix comme d'un instrument sonore, comme par exemple la poésie sonore, mais ça peut être aussi des œuvres comme Dominique Petitgand, qui joue de petites comédies, petites compositions familiales, ou d'objets trouvés, sonores et vocales, comme les œuvres par exemple, où des cassettes peuvent nous révéler des voix. Mais donc la voix est toujours aussi assez présente, et je parlerai un peu de poésie sonore, en tout cas de ce qu'on a montré à Stisonic, dans sa grande diversité, poésie action, poésie concrète, poésie sonore, spoken word pour les Américains. On peut aussi, selon les définitions, trouver d'autres horizons esthétiques. L'environnement son, hein, bah c'est aussi, on pourrait mettre field recording là-dedans, mais aussi tout ce qui vient un peu de l'ambient music qu'Eno a défini en 78, et avant il en avait parlé dans Discrete Music, et avant lui les musiques d'ameublement de Satie et d'autres. Et puis Cage aussi en avait parlé. Les réseaux sons, hein, qui utilisent les technologies du réseau à l'instar des différents types évolutifs, par exemple des bornes multimédia, dispositifs géolocatifs dont j'ai parlé tout à l'heure, le flux en temps réel, bah, Locus Sonus, on voyait Jérôme jouer tout à l'heure, a beaucoup joué sur le streaming. Et on a montré aussi l'installation de Locus Sonus, Locus Sonus Stream Promenade, qui est tout à fait dans la logique du réseau son. Mais en même temps, c'est aussi une machine son. Donc souvent, on voit bien que c'est ce que j'avais essayé de faire, avoir quand même plus ou moins une typologie, ben, ça ne marche pas tellement, parce que oui, ça donne des points de repère, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles se croisent, évidemment, à différents endroits. Et puis, on peut avoir différentes définitions aussi de ces typologies-là. Mais bon, elles peuvent être intéressantes comme points de repère. Je ne m'y suis pas du tout attaché au niveau théorique, mais pour moi, c'était un peu une forme d'équilibre, j'allais dire, dans ma programmation aussi. À cet équilibre-là s'ajoutaient aussi d'autres formes, notamment les créations radiophoniques, que j'appelais hors du poste, puisqu'on n'est pas un festival de création radiophonique, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais on joue de la création radiophonique aussi pour la sortir de son dispositif en temps et d'une certaine création radiophonique qui est peut-être un peu plus poétique que documentaire, j'allais dire. Un peu plus, quelque part, les ateliers de création radiophonique de France Culture, de ce que vous faites ici, que Arte Radio, qu'on a invité aussi par ailleurs. Hein. Ils sont tous venus chez nous aussi pour présenter leur démarche avec des œuvres intéressantes. Et on a notamment récemment dans City Sonic fait le dernier City Sonic en 2015, comme c'était la capitale culturelle, et je l'ai dit, était très très ambitieux et très étendu dans la ville, avec beaucoup d'œuvres, il y avait plus de 80 artistes. Et là, on a fait un parcours qui s'appelait Sonic Pirate. On a fait une petite vidéo là-dessus. Je pense, Alexandre, que tu n'avais pas eu l'occasion justement de le voir parce que il fallait aller assez vite dans la visite. Et ça remet justement l'histoire de la marche de la déambulation aussi en jeu. Voilà une petite vidéo. Là encore, c'est quasi impossible à filmer, puisque l'idée, c'est qu'on est dans des lieux, des passages, des jardins, des portes qui s'ouvrent et qui tout d'un coup nous donnent un bout de création radiophonique ou de création poétique, un fragment, et que c'était un parcours, là encore, dans le parcours. Là, c'est à Grand Place de Mons. Je vous passerai après une autre vidéo de City Sonic, parce que c'est important de voir ce que ça fait dans la ville, évidemment, ce son, ou ces sons. Ici, on est chez un magasin d'instruments de peinture, et on avait justement une espèce de création radiophonique sur ce thème-là, qu'on écoutait dans le magasin pendant que les gens cherchaient à acheter. Ici, on est vers l'auberge de jeunesse, là à droite. Quand on ouvrait la porte, on en avait une autre.
Je ne sais plus sur quelle thématique, mais à chaque fois, c'est différent.
Alors ça, c'était en effet sur le yaourt. C'est Christophe Bayot qui avait fait... Vous savez, le yaourt, c'est quand on veut chanter en anglais et qu'on dit un peu n'importe quoi, là. Mais ça existe dans toutes les langues, hein, ce principe du yaourt. Et donc là, on le retrouvait dans certains lieux, notamment dans des bars également, qui passaient après des musicaux. Ça, c'est toujours un extrait de la création sur le yaourt. Là, c'était au Mundaneum, qui est un lieu d'archives, un très beau lieu d'archives, fait par deux utopistes du début du siècle passé, qui voulaient archiver le savoir avec des fiches en papier, c'est une espèce de pré-web. Et là, c'est une belle création de Magali Skurmans, qui s'infiltre avec beaucoup d'intimité dans la vie d'une mère qui a perdu son enfant. Là, j'essaye toujours d'haranguer le public, et là, on a mis un petit bout là-dedans.
Quand t'es à mort de quelqu'un, c'est-à-dire à un moment donné, il y a d'une seconde à une
ici,
autre.
Une autre création autour de la mort, à l'entrée d'une église. Là, c'est chez une... Dans une librairie.
Sec. Si tu veux, tu resserres la corde.
Ouais.
Pas perdre de temps, tu dis sec.
Sec.
Donc, toujours ce côté d'amener à une forme de déambulation qui passe aussi par des endroits où on peut être étonné, on peut être saisi par des créations. Là, c'était un arbre sonore par Isabelle qui avait mis toute une série de petites cloches indiennes qui évoluaient avec le vent, quand il y avait du vent. Et à côté de ça, il y avait aussi d'autres endroits dans ce parc où il y avait aussi d'autres créations sonores. Alors, mais qu'est-ce que CitySonic dans son ensemble? Parce que finalement, je n'arrête pas de vous mettre des choses fragmentées, parce que j'essaye encore une fois de vous parler du son, et je vous parle du son par ses détours finalement. Je me suis rendu compte, d'ailleurs il y a pas mal de temps de ça, avec Bastien Gallet, qui je crois est passé par ici aussi, qui a pas mal écrit sur le son aussi, et Christophe Kim aussi d'Art Press, qui avait fait ici cette chose qu'on avait fait ensemble à l'École d'Art d'Aix-en-Provence, qui était une espèce de colloque mais assez convivial autour de l'écoute et du son, et je ne me rappelle plus comment on avait appelé ça, mais c'était aussi un nom assez rigolo, j'ai oublié.
Sonatorium.
Ah ouais, tu vois, ça m'est sorti de la tête, je ne sais pas pourquoi. Sonatorium. Et on s'était rendu compte, pour le premier sonatorium qu'on avait fait à l'École d'Art d'Aix, en lien aussi avec Locus Sonus, laboratoire d'art sonore qui était bien implanté à Aix à ce moment-là, et à la Ville Arson à ce moment-là, parler de création sonore, c'était peut-être intéressant de le faire par ses pourtours, justement, par le cinéma, par la musique, etc. Et donc, on avait invité Pauline Oliveros, par exemple, qui, venant de la musique, mais a quand même beaucoup écrit sur ce concept de deep listening, avait non seulement fait une très belle performance, mais parlait de ça. Christina Kubitsch, qui nous avait parlé comment elle, venue de la musique, mais aussi des arts plastiques, étant arrivée à faire aussi des créations sonores dans la vie, notamment c'est Electrical Walk, où on entend, elle fait entendre par un casque spécial qui décode quelque part dans la ville toute une série de signaux électromagnétiques qui en général sont très désagréables, des alarmes, des choses comme ça, mais qu'elle nous fait. Elle fait tout un parcours avec ça dans la ville, et c'est très intéressant, sa communication. Comment est-ce qu'en partant des arts plastiques et de la musique, en étant arrivé là, finalement, c'est pas toujours si évident. Et donc, on est toujours dans cette histoire de pourtour ou de croisement. Ici, je vais vous donner une petite overview, donc un petit résumé, mais très succinct, encore une fois, mais qui fait quand même 9 minutes, mais là on va la regarder parce que ça me permettra de vous montrer les différentes entrées de City Sonic aussi. Je dis toujours le son et quelque chose d'autre. C'est un résumé de la dernière édition. Alors, ici c'est Jason Van Gulik. Jason Van Gulik est au départ un architecte de formation. Ça ne se voit pas, là il est batteur. Mais ça, c'était une des performances d'ouverture de City Sonic, parce que City Sonic, ce n'est pas que des installations, c'est aussi des performances, des ateliers, des rencontres, une radio, la Sonic Radio aussi, une radio du festival en ligne et en lien avec d'autres radios indépendantes, en ondes aussi. Et il a fait cette performance, s'appelle Résonance, où il travaille justement dans une église, c'était l'église baroque, une très belle église du centre-ville, et il avait fait une installation qui s'appelait Ad Libitum, avec des métronomes, qui étaient comme des sculptures, et qui étaient mis à certains endroits pour que ça résonne d'une certaine manière, c'est que l'acoustique des églises est bien connue, et très, très précise, très fine, et là, il avait fait une performance en tant que batteur, c'est un batteur très puissant, très fin aussi quand il veut, et là où il jouait en fonction, c'était pas numérisé du tout, pas électrifié du tout, en fonction de l'acoustique. Ici c'est plus le lien avec à la fois l'aspect numérique, interactif et un côté grand public, plus accrocheur j'allais dire, mais je ne renie pas du tout, avec le groupe français Ezekiel et leur fameuse installation Les Mécaniques Poétiques, mais il y en avait plusieurs nouvelles qui était montré à l'occasion de City Sonic. C'est un projet qui dure déjà depuis quelques années. Là, le Theramine est autour de Marie, par exemple. Chaque installation est un meuble aussi, un beau dispositif. Là, c'est des petits potiquets, comme on dit en belge, des petits pots dont on peut jouer. Avec ce côté, j'aimais bien fin de siècle, un peu Jules Vernien, et en même temps très numérique, mais qui cache son dispositif. Ce côté harpe avec cette cage à oiseaux. Alors ça, on avait pas mal d'artistes de Taïwan cette année parce qu'on fait beaucoup d'échanges internationaux. Et là, c'est Fujiwan, c'est un artiste taïwanais qui était aussi à Ars Electronica Transmédial, je pense, à Berlin, mais qui là a fait cette performance qui s'appelle Hypertransmission, où le son devient aussi un signal. Un peu dans une esthétique proche de Ryoji Ikeda ou de Panasonic, et c'était à l'école d'art. Un autre artiste taïwanais, ici, sur le concept du temps, et du temps qui, chez eux comme chez nous, est un temps de plus en plus rapide. Et donc là, une goutte d'eau tombe sur ce dispositif chaud, et on entend en fait simplement le son de cette goutte d'eau qui est amplifiée, on l'entend pas bien là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et après ça va en fumée tout simplement. C'est un autre artiste taïwanais, Yao, qui travaille sur la relation lumière et son électronique, et toutes les altérations qu'il fait avec des capteurs, des lasers autour de la lumière est reproduite en son. C'est à la fois une performance et une installation. Ici, c'était la version performance pour le week-end d'ouverture. Sound of Suitcase, c'est un autre artiste taïwanais aussi de Taipei. Ils ont une belle pépinière de jeunes artistes là-bas. Ici, ce sont des valises numériques et sonores. Chaque valise est un instrument. Ça peut être aussi une installation. Mais là, c'était aussi une performance. Les valises étaient reliées en midi et il en jouait. Isabelle, qu'on a vu tout à l'heure, un petit atelier pour les tout-petits autour de la relation au corps et à la vibration sonore avec les bols tibétains, mais aussi les odeurs. C'est ce qu'on appelle Sonic Kids, toute une série d'ateliers donnés par les artistes pour les enfants et les éveiller au son. Son arbre sonore Singing Tree qu'on a vu tout à l'heure avec les clochettes indiennes. Ici, le côté lutherie sauvage avec un collectif bruxellois qui s'appelle Amadeo et des instruments inventés sur le site du Beffroi, qui est tout au-dessus de la ville de Mons, un beau site. Des vélos sonores, ou des ateliers de vélos sonores aussi, avec François VI. On peut veut construire son vélo sonore et tonitruant. Il en a fait aussi une belle installation, les espaces cyclophoniques avec des baignoires et du son. Ça, c'est une installation en fait, où j'ai convié Charles Penquin, on parlait de poésie sonore tout à l'heure, vous savez, on était dans on est bien sûr dans une société d'hyperspectacle, mais quand on est dans une capitale culturelle, on est vraiment dans l'événementiel à tout craint. Et il y avait 500 événements par an cette année-là à Mons. Et donc, ça m'a donné l'envie de lui donner comme thème le spectacle. Et donc, il a fait 3 poèmes, 3 performances qu'il a lu lui-même, qu'il a avec son interprétation d'ancien gendarme très musclé et très drôle en même temps, nordiste. Et il y a une vidéo où il est dans la salle de spectacle du Grand Théâtre de Mons, une vidéo où il est devant et une vidéo où il est sur scène. Et c'est le spectacle, ces 3 poèmes où c'est le spectacle sur le spectacle, sur ou le spectateur, donc dans la salle, ou encore donc sur scène, oui, et l'acteur aussi. Et donc, et là on les montrait toutes les 3 ensemble dans un lieu qui était dédié à au doudou, donc à Saint-Georges et le dragon, qui fait partie de la mythologie, et une fête à Mons. Malheureusement, on ne l'entend pas très bien là, même pas du tout, vous voyez juste sa tête. Les Ad Libitum, donc toute cette série de métronomes dans l'église dont je vous parlais tout à l'heure par Jason Van Gulik. Alors, une de nos entrées, c'est évidemment la musique dans Stissonic. Je parlais de musique-son tout à l'heure. Baudouin de Jarre est un artiste très intéressant. C'est un compositeur, un violoniste aussi belge. Et là, c'est toute une série de partitions qu'il a fait pour violon seul, avec des partitions qui sont aussi très graphiques. Il ne faut pas être nécessairement un musicien pour les apprécier. Et dans cette salle, qui est une des salles de cours de l'école de Mons, qui devient une salle d'exposition ici, on diffuse une dizaine de pièces qu'il a fait pour violon seul, qui sont autant de partitions graphiques. Baudouin de Jarre, par ailleurs, est quelqu'un qui a aussi travaillé sur la question de la partition. Peut-être faudrait un petit peu pousser, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Là, c'est Yannick Schaffer qu'on va voir, et c'est bizarre d'ailleurs, son nom n'est pas bien écrit. Et Baudouin de Jarre a travaillé sur l'idée de la partition avec Adolphe Olfi. Vous connaissez cet artiste brut et visionnaire enfermé en Suisse au début du siècle passé, et il a décodé des partitions de Wolfi à sa manière, et c'est aussi au violon, et c'est très beau. Il y a un très beau disque qui est sorti, un livre disque qui est sorti chez Sebrosa, une très bonne maison d'édition de musique expérimentale et avant-gardiste, et donc aussi de création sonore au sens pluriel, avec qui on travaille beaucoup. Yannick Schaffer est un musicien électronique. Et là, il travaille sur l'idée d'acoustique avec cette installation qui s'appelle Vacant Space. C'était pas une création, mais c'était une première belge. Et l'idée, c'est que vous pouvez projeter toute une série d'espaces qui sont des espaces vides. Mais on sait bien qu'un espace vide n'est jamais vide de bruit, de son. Et justement, il a travaillé avec Chris Watson. Hein, vous connaissez Chris Watson bien connu pour ses field recordings qu'il a sortis sur le label Touch et qui continue de faire grand bruit. Et Chris Watson a donc enregistré très précisément le son de l'acoustique d'une usine vide, d'un intérieur vide, d'une galerie vide. Et en se branchant avec son casque, vous pouvez écouter à l'endroit où vous voyez des petits trous là, de l'écran. Le son de l'espace vide qui passe à ce moment-là. Et je trouve très beau parce que on voit bien qu'un espace n'est jamais vide de son, n'est jamais neutre, est aussi un diffuseur, n'est pas qu'un réceptacle de son. Damien Bourniquel, c'est quelqu'un qui travaille sur l'idée du signal. Et là, on est plutôt dans le numérique, mais on repasse, vous allez voir, dans l'acoustique et l'analogique aussi, surtout. Donc, il a demandé aux participants du festival, et là d'ailleurs il est en train de faire une expo avec une centaine de participants, dont ceux du festival, dans une galerie à Paris, de leur envoyer la photo d'identité. À partir de cette photo d'identité, ils passent ça dans le logiciel Audacity, hein, facile, tout le monde le connaît, c'est gratuit en général, c'est les premiers pas de montage sonore, et ça devient un signal sonore. Ils renvoient ce signal sonore aux artistes qui en font une composition, mais avec ce signal sonore. Et lui en refait une photo, qui est leur photo d'identité triturée par ce son, si je puis dire, via Audacity, qui devient un 45 tours, unique. Et on peut écouter le résultat de ça sur 45 tours et le voir aussi, ce bel objet unique de 45 tours, dont la pochette et la photo de l'artiste via cet aller-retour d'Audacity entre signal sonore et visuel numérique.